Affaire El Hadj Diouf et Alioune Tine, le parquet saisi de ces deux affaires d'agression, saisit à son tour la division des investigations criminelles. Le député Famara Senghor, accusé d'avoir violenté son collègue El Hadj Diouf, pourrait être poursuivi pour flagrant délit. Autrement dit, on n'aurait pas besoin de lever son immunité parlementaire, selon des sources proches du dossier. Les coupures de courant toujours présentes à l'université Cheikh Diop de Dakar, d'après les étudiants et l'administration, elles ont causé ces coupures une pénurie d'eau. BFM 2011, la première épreuve de dissertation rassure les candidats. Dans le domaine de la santé, hôpital El Hadj Ibrahim Niass de Kaolack, une grève de 145 agents. La direction de l'établissement sanitaire prend des vacataires. En sport, lutte, écurie Falaï Baldé dit prendre acte de la décision du CNG de lutte de suspendre d'un an Ama Baldé. Et puis nous vous donnerons la parole autour de 12h30. Les assises de Dakar et de Ziguinchor reportées une deuxième fois, faute de budget estimé à 30 millions de nos francs. Que pensez-vous de cette affaire? Et bienvenue. Des candidats sortant de la salle d'examen, le sourire aux lèvres, ils nous diront pourvu que ça dure. Dans ce centre d'examen, la première épreuve d'examen s'est apparemment bien passée. C'est donc bien parti ici pour le BFM. Même si l'équation du programme inachevé n'est toujours pas résolue. Reportage à Wambaï.
Tous les candidats sont en salle. Seul le chef du centre et les présidents de jury sont au milieu de la cour. Ils veillent au bon déroulement des examens. Les deux sujets de la première épreuve distribués, Abdoulaye Dembassi, le chef du centre, fait le point de la situation.
C'est un centre qui comporte 4 jurys, A, B, C, D. Au total, nous avons 1135 candidats. Bon, l'épreuve de composition française a démarré. Les candidats sont donc toujours en salle. Bon, nous avons démarré effectivement les épreuves à 8h10.
À 9h20, Mafal Hach sort de sa salle. Il est d'ailleurs le premier à avoir terminé la rédaction de son sujet. Abordable, c'est le mot qu'il prononce avec le sourire.
Oui, c'est abordable.
Lequel des sujets as-tu choisi?
Le sujet 1, il parle de la lecture des jeunes. Parce que dès nos jours, les jeunes sont intéressés sur d'autres activités et ils ont paraissé à faire la lecture.
Astu Diallo trouve elle aussi abordable la première épreuve et elle nourrit beaucoup d'espoir quant à la suite.
C'était abordable le matin pour les épreuves de dissertation, c'était abordable. Comme le cas du bac, c'était abordable. On pense que le BFM sera comme ça aussi, espérons.
Maudou Diouf lui dit sa crainte, même s'il trouve facile le français.
Non, on n'a pas pu terminer. Parce qu'il y a eu beaucoup de turbulences. Surtout avec les grèves là.
Et après le français le matin, les candidats vont se pencher l'après-midi sur les épreuves d'anglais et de SVT.
Direction maintenant la banlieue. L'examen y a démarré également. Salif Sow.
Centre Pidgin SA, salle 1. Les candidats ont fini de faire la dictée. Ils attendent les questions à 11h, passé de quelques minutes. Ici, aucun dysfonctionnement majeur n'est noté, excepté l'absence injustifiée de 4 candidats, nous dit Ali Fall, président du jury.
Nombre d'inscrits, c'est 290. Donc, nous avons constaté seulement 4 absents. Donc, les candidats sont répartis en 10 salles. Donc, jusque-là, il n'y a pas de couac. Tout se déroule normalement.
D'autres qui risquent d'être éliminés d'office sont les tricheurs. Ils ont été mis en garde.
Non, le tricheur, automatiquement, il est relevé, il est sorti de la salle et... En fait, il est signalé. Donc, normalement, il est traduit. Il y a des sanctions pénales possibles. Des sanctions pénales possibles.
Au total, le département de Guédiawaï compte près de 30 000 candidats au BFM.
Il y a 30 jurys. Il y a 30 jurys et la moyenne, ça tourne autour de 290-300.
L'examen doit durer 3 jours. Salif Sow, Centre Pidgin SA Guédiawaï, Radio Futur Média.
Bonne chance.
RFM, la radio de toute l'actualité.
Grève à l'hôpital Ibrahim Niass de Kaolack. Le responsable de la banque de sang refuse les tubes de prélèvement. L'infirmier voulait faire un test sida pour des détenus malades. Mbaye Kébé, secrétaire général de la sous-section Sud-Sas, est responsable de la banque de sang.
Sylvien pour prendre des tout pour faire des prélèvements au niveau de la prison. Là, vraiment, nous ne sommes pas preneurs, compte tenu que nous respectons notre mode d'ordre de grève. Parce que là, ce n'est pas une urgence, ni un service minimum que nous devons faire au niveau des services pénitentiaires. Donc, il sera obligé d'attendre d'ici vendredi pour qu'on reprenne, pour qu'ils viennent chercher des tubes.
Donc, vous ne faites aucune dérogation, même à ces détenus?
Ah non, nous n'avons pas fait de dérogation, parce qu'on ne sait pas le mobile de son intervention. On ne sait pas. Parce que, comme vous l'avez su, bien entendu, il dit qu'ils avaient des analyses qui étaient positives et ils voudraient une confirmation. Donc, là, l'urgence ne se pose pas. Donc, c'est des analyses qui ont été faites il y a de cela très longtemps. Donc, quand il attend jusqu'au mardi pour nous venir nous dire qu'il veut une confirmation, là, il peut attendre. Parce que là, ce n'est pas une urgence.
Parce que mais c'est devenu son position de faiblesse.
Ah non, mais attendez, vous voulez faire rentrer dans une autre situation que je ne maîtrise pas. Parce que lui étant l'infirmier au niveau de l'infirmerie de la prison de Kaolack, bon, lui, c'est par chance qu'il est venu, hein, il a eu la porte ouverte, bon, il est venu s'adresser à moi, compte tenu qu'il y a des relations entre lui et moi, il a eu demandé pour qu'on lui cède des tubes.
Face à cette grève de 145 agents de la santé, la direction de l'hôpital El Hadj Ibrahim Niass de Kaolack a recruté des vacataires, une mesure pour éviter des cas de décès dans la maternité, comme cela a été le cas il y a quelques jours. Les étudiants de l'université Cheikh Diop de Dakar sont en manque d'eau et selon eux, ce sont les coupures de courant qui sont passés par là. L'administration de l'université ne dit pas autre chose. Aujourd'hui, pour les pensionnaires de Cheikh Diop, c'était le parcours du combattant pour avoir de l'eau. Nous entendrons avant la fin de cette édition d'information le reportage de Nyoumaba, tout comme celui de Charlotte Lalanne, toujours sur ces coupures de courant. Nous allons maintenant à Ziguinchor, le programme alimentaire mondial au chevet de plus de 7500 ménages recensés dans la commune. Cela fait suite à une enquête que le PAM a initiée en collaboration avec l'UNICEF et la FAO. Correspondance Abdoulaye Sambou.
La crise économique mondiale qui a entraîné la flambée des prix dans notre pays a lourdement frappé les ménages. Selon une enquête du PAM, de l'UNICEF et de la FAO, l'insécurité alimentaire dans la commune de Ziguinchor se chiffre à 27%, suffisant pour que le PAM initie un programme pilote de bons d'achat avec l'appui de l'Union européenne. Ces bons d'achat de 3 000 par personne et par mois, pour un maximum de 6 personnes par ménage pendant une durée fixée à 6 mois, vont permettre aux bénéficiaires de changer ces bons reçus contre des produits alimentaires. Au total, plus de 7500 bénéficiaires sont recensés dans les 26 quartiers de la commune de Ziguinchor. Jean-Baptiste Biringamana est le représentant de l'antenne du PAM à Ziguinchor.
Une des réactions que l'on appelle la réaction d'adaptation en les populations, c'est plutôt de réduire, pour ceux qui n'en manquent pas carrément de nourriture, de réduire les ratios, de réduire la qualité, voire la quantité. Il y en a qui dépendent carrément de l'assistance publique, de l'assistance sociale, des amis, de la famille. Et donc, une des réponses qu'a voulu apporter l'État de Sénégal, c'était de leur apporter un peu de soutien pendant cette période de crise via la distribution des bons alimentaires. Les bons alimentaires, c'est quoi? Vous savez qu'il y a ces programmes-là, le PAM ne les fait pas seulement, ne le met pas seulement au Sénégal. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le PAM qui a ce genre de. Et c'est pour cela qu'un bon est beaucoup plus sécurisant, parce que n'oubliez pas qu'une des missions, et la seule mission d'ailleurs du PAM, c'est d'apporter de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Autrement dit, le bon est échangé contre des aliments.
Cette quatrième phase du programme pilote concerne 8 quartiers de la commune. À signaler que ces bons ne peuvent être échangés qu'avec du riz, du sucre, du miel, du maïs et du riz. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM.
Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité.
RFM, partout, tout le temps.
Agression contre le député El Hadj Diouf et le droit de l'homiste à l'Untine, les deux affaires sur les chapeaux de roue de l'enquête. Après dépôt des plaintes, la DIC entre en action suite à une saisine du procureur de la République concernant le député El Hadj Diouf, déjà entendu par la police judiciaire. Des sources au fait du dossier indiquent qu'a priori son collègue Famara Senghor, accusé d'agression, aurait commis un flagrant délit, donc pas besoin de lever son immunité parlementaire. Babacar Fall.
La division des investigations criminelles de la police a déjà auditionné Maître Eladji Diouf. L'avocat et député avait porté plainte auprès du procureur suite à l'agression présumée contre sa personne le 12 juillet dernier dans une salle à l'Assemblée nationale. Agression perpétrée par son collègue député Farmar Senghor du Parti démocratique sénégalais. Ce dernier sera-t-il protégé par son immunité parlementaire? Pas si sûr. Des sources proches du dossier nous révèlent qu'on s'achemine vers un cas de flagrant délit. Et dans ce cas, il n'y aura pas besoin d'évoquer une quelconque immunité. Maintenant, c'est l'enquête préliminaire de la DIC qui va préciser tout cela.
Et sur Alioune-Tine ?
Au sujet de l'agression contre Alioune-Tine, nos sources nous renseignent que le procureur va transmettre aujourd'hui même le dossier à la division des investigations criminelles qui devrait immédiatement entendre le président de la RADO qui a été violemment pris à partie lors des manifestations antigouvernementales du 23 juin dernier. Sur les dossiers Alioune-Tine et Maître Eladji Diouf, des reproches ont été faits au procureur de ne pas s'être autosaisi alors qu'il l'a fait pour les ministres Serigne Mbacke Ndiaye et Oumaraïli Guèyssec. Mais nos interlocuteurs précisent que Serigne Mbacke Ndiaye et Oumaraïli Guèyssec ont bel et bien porté plainte après le saccage de leur domicile lors des émeutes de l'électricité du 27 juin.
Des affaires à suivre. Merci Babacar Fall qui était en direct dans ce journal. Dans l'actualité politique, le concept de la tortuosité revient au devant de la scène. Idrissa Seck avait rappelé lors des émissions ici, on en parlait de TFM et le grand jury de RFM. Diegan Sen, le chargé de communication de l'URD, reprécise le contexte et les deux rencontres que Diboka avait eues avec le président Abdou Diouf lors des deux tours en 2000. Propos de Diegan Sen recueilli par Alassane Samba Diop.
L'affaire de la tortuosité, je crois que l'URD y répond hein, depuis toujours, depuis 1980, depuis que le problème s'est posé. Hein, c'était en 2000. Mais je voulais faire remarquer quand même que c'est trop facile aussi d'accuser les gens. Il n'y a rien de plus simple que cela. Mais le problème tel qu'il s'est posé, et que j'ai noté d'ailleurs un peu plus haut, il s'agissait de choisir entre deux fils du Sénégal. Et Guy Boka, c'est le premier à dire ici, en 99, que son camp naturel, c'est l'opposition. Et qu'il soutiendrait naturellement le candidat de l'opposition qui serait arrivé en face de Diouf, au second tour. Mais c'est le seul à l'avoir dit. Ensuite, Moustapha Niass l'a répété juste avant l'ouverture de la campagne électorale, en 2000. Et Idrissa Seck sait parfaitement pourquoi Guy Boka n'est pas allé avec Wade en 2000. Il le sait bien parce que c'était lui, avant les élections, le plénipotentiaire du PDS face à Mbaye Diouf qui était celui de Guy Boka pour ces élections-là. Donc, il faut que les gens soient honnêtes.
Les coupures de courant, un mauvais souvenir, pas partout, comme on l'a évoqué tout à l'heure à l'université Cheikh Diop de Dakar, pas non plus dans certains quartiers de Dakar, jusque-là épargnés par les délestages. C'est l'angoisse. Charlotte Lalanne, reportage.
Dur, dur, les coupures. Ici, quand on parle électricité, les gens affichent grise mine, car plus de courant égale plus de travail. David est tailleur, et pour lui, ces délestages, c'est le début des pépins d'argent.
Par exemple, on couperait 9h du matin jusqu'à 5h. Tu sais que ça ne va pas. Après, avant, ça va. Mais maintenant, là, ça va commencer à couper. Parce que tu sais qu'on va payer le loyer. Le loyer, la chambre que tu as louée là, tu vas payer le loyer. Et puis la télé que tu as louée encore, tu vas payer le loyer. Et puis la nourriture encore. Mais qu'est-ce que tu vas faire?
Presque chaque soir, la rue 60 et ses alentours sont plongés dans le noir, une obscurité qui en inquiète beaucoup.
Bon, ça fait presque 3 semaines, hein. On n'a pas l'électricité, même la nuit, on n'a pas. C'est dur. Avant, bon, c'était dans les autres quartiers, maintenant c'est notre tour. C'est pas sûr. On n'est pas en sécurité avec les enfants, tout ça là.
Et pour tous, un seul responsable, la vieille Sénélec, assis devant son télécentre, cet homme accuse.
Enfin, par rapport au gouvernement, donc il y a des problèmes. Donc il y a des problèmes au niveau de la Sénélec. Donc on attend, il y a des promesses, mais on n'arrive pas à. Ici aussi, c'est agréable. Oui. Je n'ai pas à.
Avec la chaleur caniculaire de ces derniers jours, chacun lutte comme il peut et les éventails sont de sortie en attendant le retour de la dame électricité. En attendant le retour de la dame électricité.
RFM. L'actualité internationale.
La répétition est pédagogique, Charles Lalanne. Bonjour, monsieur. Comment on peut t'appeler d'ailleurs?
Monsieur Diouf, Antoine.
Antoine Diouf, l'actualité internationale. Guinée-Conakry, la résidence d'Alpha Condé a été attaquée à l'arme lourde dans la nuit du lundi à mardi.
Et c'est une attaque menée par des hommes en uniforme non encore identifié. Selon les informations recueillies auprès de notre correspondant permanent à Conakry, le président Condé est sain et sauf, l'appel d'Amadou Hamzaba.
C'est une nouvelle qui surprend le peuple de Guinée ce mardi. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus aux environs de 3 heures ce mardi au domicile du président guinéen à Kipé, quartier situé en banlieue de Conakry. Il s'agit d'un groupe de militaires lourdement armés qui a été finalement repoussé par la garde présidentielle. Selon une source proche de la présidence de la République, l'attaque a fait un mort et plusieurs blessés côté force loyaliste. Très tôt ce matin, c'est le silence qui règne dans la ville de Conakry. L'administration et la circulation restent perturbées. À l'entrée du centre-ville de la presqu'île de Kaloum, des militaires, des gendarmes et des policiers procèdent à des fouilles systématiques. Suite donc à cette attaque du domicile du professeur Alpha Condé, le premier ministre Mohamed Seyd Fofana s'est exprimé sur les médias d'État. Le chef du gouvernement guinéen appelle les citoyens au calme et à la retenue. Pour sa part, Alpha Condé, sorti sain et sauf de cette attaque, a appelé les Guinéens à l'unité et à la concorde. Il a aussi invité les citoyens au calme et à la sérénité avant de féliciter la garde présidentielle, car selon le président guinéen, elle s'est battue héroïquement pendant 2 heures avant de faire appel au renfort du camp Alpha Yaya Diallo. Déjà, des arrestations ont commencé, notamment avec les anciens gardes présidentiels des deux précédents régimes. Amadou Hamzaba, Conakry, Radio Futur Média.
Amadou Hamzaba, le bilan de cette attaque est d'un mort et des dégâts matériels, d'après Jeunafrique, il faut bien le préciser. Et selon Reuters, le portail de la résidence présidentielle aurait été soufflé par un tir de roquette et le bâtiment serait criblé de balles. Des témoins ont rapporté que l'attaque a commencé vers 1h30 du matin.
Diplomatie, Paris s'engage aux côtés du nouveau pouvoir ivoirien.
Lors de son séjour en Côte d'Ivoire, le premier ministre français François Fillon a confirmé l'engagement de Paris aux côtés du nouveau pouvoir d'Abidjan. Engagement au plan économique, politique, militaire et sécuritaire. Ce fut un chapelet de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire.
En Libye, les rebelles annoncent la prise de Brega. Les pro-Kadhafi disent le contraire.
En fait, Tripoli a infirmé la prise du port pétrolier stratégique de Brega par le Conseil national de transition. Mais selon la rébellion, les troupes loyalistes auraient fui Ras Lounouf.
C'est le flou total autour du contrôle de la ville de Brega. D'un côté, les rebelles affirment s'être emparés de ce port pétrolier stratégique et de l'autre, le régime qualifie ces allégations du Conseil national de transition de mensongères. Brega est une localité située à 800 km de Tripoli et 240 km de Benghazi, fief de la rébellion. Sa prise pourrait permettre aux insurgés de saisir plusieurs infrastructures, notamment pétrolières, vitales pour l'avenir économique du pays. Maintenant, lequel des deux camps contrôle Brega? La situation reste toujours confuse. Un autre élément qui semble moins clair, c'est la rencontre entre des éléments de Muammar Kadhafi et la diplomatie américaine. Pour l'ambassadeur des États-Unis en Libye, il ne s'agissait pas d'une négociation, mais plutôt de faire passer un message. Le porte-parole du guide a pour sa part déclaré que cette rencontre est une première étape du dialogue entre Américains et fidèles de Kadhafi. Cette réunion s'est déroulée samedi dernier en Tunisie. Les émissaires du dirigeant libyen ont également affirmé que le régime est prêt à ouvrir des négociations de paix, mais sans condition.
Les troupes loyalistes donc auraient fui Ras Lanouf. C'est bien cela. Et c'est tout pour l'actualité internationale.
Et merci Antoine Diouf. Reviens quand tu veux.
Parole aux auditeurs.
L'actualité. Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que vous devez.
Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité.
Bonjour.
Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM.
Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
La parole aux auditeurs. Les assises de Dakar et de Ziguinchor reportées une deuxième fois faute de budget estimé à 30 millions de francs CFA. Que pensez-vous de cette affaire? C'est le débat du jour.
RFM Sport.
La lutte avec frappe pour démarrer le journal des sports. Cher Tidiane Diagne, bonjour.
Bonjour, Mamadou.
Réaction officielle de l'écurie Fala et Baldé après la suspension d'Ama.
Dans 9 mois ferme et 3 mois avec sursis, la sanction infligée à Ama Baldé. On reproche au sociétaire de l'écurie Fala et Baldé d'avoir exhibé un reptile lors de son combat victorieux de vendredi dernier contre Fogueleu. Une décision acceptée par les proches d'Ama Baldé qui appelle tout de même à la clémence du CNG. Nous écoutons Abdou Bahoum, il est le manager de Ama Baldé. Le CNG nous avait certes averti, mais c'est un boa que nous avons amené et non un serpent. Quand Ama Baldé a amené le reptile, nous, ses encadreurs, n'étions pas informés. C'est peut-être ses amis d'écurie qui l'ont poussé à le faire. Mais nous, nous acceptons cette décision du CNG. Nous ne la contestons pas. Nous acceptons la décision divine. Tout de même, nous demandons pardon au CNG. Mais s'il n'accepte pas notre demande, on s'arrêtera là. Pour le même motif, Ama Baldé a été averti par le CNG lors de sa confrontation avec Baipol. C'était le 4 juillet 2009. Cet après-midi, le stade Idomar Diop accueille le face-à-face Balagueï de Tyson. Un autre face-à-face est aussi prévu le 22 juillet prochain dans les locaux de la radio-télévision sénégalaise. La confrontation finale Tyson-Balagueï, c'est le 31 juillet au stade Demba Diop de Dakar. C'est à l'initiative de Gaston Productions.
Demain peut-être le combat des serpents dans l'arène de lutte sénégalaise. Jeux africains de Maputo, c'est en septembre prochain, le Sénégal se prépare pour ses joutes.
Toutes les dispositions vont être prises pour permettre à nos participants de relever le défi. 300 athlètes sénégalais, toutes catégories confondues, feront le déplacement de Maputo en septembre prochain pour un budget de 600 millions de francs CFA. La précision est du ministre des Sports, Faustin Diatta.
Au niveau du gouvernement du Sénégal, en l'occurrence du Premier ministre jusqu'au président de la République, toutes les dispositions sont prises pour accompagner donc évidemment tous ces athlètes, toutes ces équipes pour aller au même titre que les autres nations africaines, compétir la même chance que les autres et gagner bien entendu comme nous sommes en train de gagner dans ces pays et gagner au niveau continental. Donc rassurez-vous, les dispositions sont déjà prises, les accréditations sont en cours, vous êtes informés. Alors c'est un grand rendez-vous auquel notre pays, le Sénégal, une grande nation de sport, ne doit pas évidemment être absent.
Cher Tidiane, on finit balle au pied.
Avec la Ligue 2 qui se poursuit aujourd'hui, la 23e journée, Yego pourrait revenir à hauteur du leader Djambar en cas de victoire cet après-midi contre la Lanterne Rouge Génération Foot. Autre rencontre prévue cet après-midi, Renaissance Stade de Mbour. Ces deux matchs se jouent au stade Demba Diop de Dakar. Les rencontres Etix de Mboro contre le leader Djambar et Niambour de Logo contre Étoile Citana sont reportées à une date ultérieure, Mamoudou.
Merci, cher Tidiane.
RFM. Fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.